affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. L'un des traits les plus singuliers de notre époque tient à l'ardeur que mettent certains de nos contemporains à relativiser la singularité humaine. Tantôt on nous explique que l'intelligence artificielle est appelée à nous surpasser et qu'il est envisageable qu'elle acquiert bientôt une forme de conscience. Tantôt, à l'autre bout en quelque sorte, on nous explique que finalement nous ne serions que des singes et que la frontière avec ceci ne serait que la justification idéologique, l'alibi en quelque sorte de notre domination à l'égard des autres espèces animales. Or, même s'ils peuvent sembler sympathiques, ces discours, ces considérations sont peut-être aussi l'expression d'une certaine fatigue civilisationnelle, une fatigue de la rationalité. Dieu merci, si je puis dire, cette fatigue n'atteint pas notre invité. Nous avons en effet la chance de recevoir dans notre studio Alain Prochian. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Je précise que vous êtes chercheur en neurobiologie, spécialiste de la biologie du développement, membre de l'Académie des sciences et professeur au Collège de France, où vous avez, où vous occupez la chaire de processus morphogénétique. Et vous venez de publier, le 15 mai dernier, un ouvrage au titre singulier, sur lequel il faudra d'ailleurs nous éclairer, « Singe toi-même ». Ma première question portera de façon assez classique sur les raisons qui vont vous pousser à écrire un tel livre et aussi peut-être à choisir un tel titre.
Alors, les raisons, c'est d'abord j'aime bien écrire, ça c'est vrai. Je pense qu'écrire aide beaucoup à réfléchir, y compris à la recherche que l'on fait, puisque les livres que j'écris sont quand même assez centrés sur des questions que je me pose en tant que chercheur. Et pourquoi sur les singes? En fait, j'ai fait pas mal de cours au Collège de France, les singes, de leur rapport entre l'homme et les autres animaux, puisque nous sommes des animaux, bien entendu. Parce qu'en fait, c'est une question qui m'intéresse sur le plan scientifique. C'est-à-dire, comment peut-on être à la fois animal et pas animal? C'est-à-dire, quelle est la position singulière de Sapiens? C'est aussi, évidemment, en réaction à un certain relativisme en ce qui concerne la place singulière de Sapiens dans l'histoire de l'évolution. Je pense que c'est un relativisme qui est dangereux, personnellement, je pense qu'il est non fondé. Mais en même temps, il est nécessaire que les... Il ne suffit pas de le dire, c'est-à-dire il faut apporter des éléments, il faut donner des éléments aux gens qui pensent, justement, pas comme nous. Et puis, ayant donné toute l'information possible dans l'état de l'information aujourd'hui, parce que bon, les sciences sont évolutives, hein, ce ne sont pas des religions, les sciences, ça peut changer, enfin, en tout cas, les contenus peuvent changer, on peut voir des erreurs, rectifier, etc. C'est le cours normal de la science. Mais en tout cas, que les gens qui disent qu'on est à 98,7% chimpanzés, en particulier, ce qui est une imbécilité, enfin une erreur en tout cas, le disent en connaissance de cause, ou plutôt en non-connaissance de cause. C'est-à-dire qu'au moins, ils ont les éléments pour juger de la validité d'une telle assertion. Après, ils font ce qu'ils veulent, mais on voit ne pas parler dans le vide.
Alors peut-être qu'on peut commencer par là, parce que c'est effectivement l'un des arguments les plus fréquemment avancés. Je ne sais pas si c'est un argument ou un slogan, en tout cas, il frappe l'imagination. Lorsqu'on explique que nous partageons 98,7% de notre génome avec les grands singes, si je ne me trompe pas.
Chimpanzé, hein. Chimpanzé et bonobo, hein. Ce n'est pas la même chose. Ce sont deux espèces différentes, les chimpanzés et les bonobos. Ils sont séparés quelque chose comme 1 million d'années quand même. Donc 1,23%. Bon, évidemment, si on regarde le nombre de bases dans un génome, ça paraît peu, mais c'est quand même 30 millions de nucléotides. Déjà, même si c'était 1,23%, ce sont 30 millions de nucléotides qui sont différents. Donc ça, c'est pas n'importe quoi, parce que même si on en restait là, tout dépend où tombe la mutation. C'est pas la masse qui compte d'une certaine façon. C'est là où tombe. C'est comme la bombe de l'oncle de Boris Vian. L'important, c'est l'endroit où elle tombe. Si vous avez une mutation qui tombe dans un endroit qui va vous modifier complètement la forme du cerveau, parce que c'est un aimant régulateur, alors vous allez avoir un effet phénotypique très largement supérieur à la simple mutation chimique. Donc c'est pas linéaire, ces choses-là. Effectivement, ça s'est passé comme ça. D'autant plus que le génome humain, le génome, d'une façon générale, hein, génome animal, c'est 98% de séquences régulatrices pour 2% de séquences codantes pour des protéines, par exemple. Donc, on a toutes les chances de tomber dans des séquences régulatrices quand on fait des mutations. Donc, déjà, ça veut dire que cette espèce de décompte un peu notarial, j'ai rien contre les notaires, hein, mais ce décompte un peu notarial n'a rien à voir avec la réalité scientifique. Par ailleurs, vous avez d'autres types de mutations qui sont des délétions du génome, vous avez des duplications du génome, vous avez des insertions d'éléments mobiles, on y viendra peut-être, qui sont en fait, parce que le génome c'est incroyablement instable, qui fait que si on voulait juste avoir un point de vue comptable, sans tenir compte de l'endroit où ce qu'elle tombe justement, il faudrait dire que c'est quand même entre 5 et 6% du génome qui sont différents entre l'homme et son cousin le plus proche, hein, parce que c'est un cousin, la famille Pan, Pan troglodytes, Pan paniscus, le chimpanzé et le bonobo. Et donc, mais on n'est pas plus 97,8% chimpanzé qu'on est 80% souris, parce que le même calcul, c'est une différence de 20% avec la souris. Quand je vous regarde, je n'ai pas l'impression que vous êtes 80% souris. Voilà, donc c'est aussi simple que ça, quoi. Du bon sens.
Il n'en reste pas moins que dans l'ambiance actuelle, le bon sens ne suffit pas. Alors, vous avez parlé de raisonnement notarial, ça nous amène à la notion d'héritage. Alors tout ça s'est passé, cette distinction s'est passée il y a combien de millions d'années, et surtout, comment et pourquoi?
C'est-à-dire que nous nous sommes séparés des pannes, donc troglodytes et paniscus. Le dernier ancêtre commun que nous avons eu avec ses cousins, c'est 7 à 8 millions d'années. Ce n'est pas toujours facile de dire exactement. Ce qui veut dire en fait 14 à 16 millions d'années, parce qu'il y a eu 7 millions d'années de notre côté, puis 7 millions d'années de l'autre. Donc en fait, la différence, elle est de 14 millions d'années. Alors ça fait quand même beaucoup. Mais vous savez, le temps biologique et le temps physique n'est pas le même. C'est-à-dire que le temps biologique, c'est le temps physique, plus toutes les modifications biologiques qui se sont accumulées pendant ce temps. C'est-à-dire que si pendant 7 millions d'années, il n'y a eu aucune mutation, ces 7 millions d'années se ramènent à zéro. Si vous avez eu un très grand nombre de mutations, c'est beaucoup plus grand. Donc en fait, ce qui est important, c'est non seulement le temps, mais le taux de mutation et l'endroit où les mutations sont tombées, pendant ces 7 millions d'années qui vont d'une part vers nous et d'autre part vers les chimpanzés bonobos, on les appellera comme ça. Voilà.
Ce que vous voulez dire par là, c'est que pendant ces 7 millions d'années, l'homme a, lui, terriblement évolué, tandis que nos cousins, en quelque sorte, n'auraient pas évolué de la même façon, de façon moins radicale.
Ils ont beaucoup évolué, mais dans une autre direction. Ça a évolué des deux côtés, ça nous a séparés encore plus d'une certaine façon. Donc oui, les hominidés, Homo habilis, Homo erectus, et puis ensuite les hominines, les hominines, ce sont des hominines, hein, tous les homos sont des hominines. Donc les hominidés, puis les hominines, c'est une grande évolution. Nous sommes différents des Néandertaliens, nous sommes différents des Denisoviens, nous sommes différents des espèces humaines qui ont été découvertes récemment, mais qui ont tout disparu, puisque nous sommes les derniers des homos. Et puis du côté des chimpanzés, c'est aussi énormément évolué. D'ailleurs, je faisais remarquer qu'il y a une dichotomie entre les chimpanzés et les bonobos, qui est une évolution ultérieure dans la direction panne. Et en fait, un bonobo est à 0,4%, pour reprendre le côté un petit peu comptable, la différence génétique entre un bonobo et un chimpanzé, c'est 0,4% de son génome. Alors, si on pense qu'un 1,23, c'est beaucoup, 0,4, c'est pas négligeable. Ce ne sont pas les mêmes bêtes, hein, même s'ils ont un ancêtre commun, bien entendu. On a tous un ancêtre commun.
On a tous un ancêtre commun. Voilà.
Non, non, c'est pas pareil.
Mais donc, dans cette évolution, Sapiens se distingue radicalement à la fois des autres représentants de l'espèce homo et bien entendu des chimpanzés, des bonobos.
Sapiens, c'est une bête très curieuse. Sapiens, c'est vraiment un animal monstrueux. C'est comme ça. Il faut faire avec. C'est pas toujours drôle d'être sapiens, parce que on est capable d'anticiper ce qui va arriver et ça peut donner un peu du tragique à l'existence, malgré tout.
Oui, vous dites que c'est un animal tragique.
Oui, c'est un animal tragique, parce qu'il sait que l'existence de la Terre est limitée, que l'existence des espèces est limitée, que l'existence des individus est limitée. Et chaque sapiens, à partir d'un certain âge, connaît très bien son destin mortel. Donc, c'est pas forcément un truc très drôle, je veux dire, même si c'est pas si grave que ça, après tout. Donc... vu de Sirius. Enfin, vu de...
Oui, mais comme nous sommes sur la Terre, c'est embêtant.
Voilà. Donc, oui, mais ça, c'est lié, si vous voulez, essentiellement à son cerveau. Alors, évidemment, l'évolution du cerveau n'est pas indépendante de l'évolution du reste du corps. Mais si on regarde simplement le cerveau, vous savez, il y a une sorte de règle de linéarité entre le poids du cerveau et le poids du corps chez les grands singes. Donc, vu le poids de notre corps, notre poids sec, c'est 40 kilos. Tout le reste, c'est du gras. Hein. Donc, notre poids sec, c'est celui d'un chimpanzé, qui sont quand même plus secs que nous. 500 grammes auraient suffi. Hein. Donc, or, nous avons quand même entre 1300 et 1400 grammes de cerveau. Donc, chez un sapiens, il y a 900 grammes de cerveau en trop. Quoi. 900 grammes de trop. Et ces 900 grammes de trop ne sont pas placés n'importe où. Ils sont placés dans des régions qui sont essentiellement des régions cognitives, parce que notre système visuel a diminué, notre système sensoriel a diminué, notre système... qui est responsable des fonctions cognitives, a augmenté énormément. Donc en fait, c'est ahurissant d'une certaine façon.
Ce que vous dire, c'est que même à point égal, comme la répartition de l'usage est différente, c'est-à-dire que
vous pouvez agrandir l'appartement et puis vous pouvez après changer les tailles des pièces. Donc on a agrandi l'appartement et puis on a augmenté considérablement le salon par rapport aux autres pièces. On a diminué la cuisine, par exemple.
Et donc par exemple, chez un singe, une part substantielle du cerveau est mobilisée sur des choses du type sentir, voir, entendre. Alors que...
Mais aussi, ils ont aussi des aires... les singes ne sont pas des idiots. C'est-à-dire qu'ils ont aussi des aires frontales et un cortex frontal dorsolatéral qui est assez développé. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe chez Sapiens, en particulier les aires du langage et puis enfin, toutes ces questions. C'est-à-dire que c'est quand même nous qui écrivons sur les singes. Ce n'est pas les singes qui écrivent sur nous. Donc, ça voudrait dire quelque chose. C'est nous qui avons construit Notre-Dame. C'est pas la bradyathermite. Hein. Donc, oui, il y a des différences. C'est pas mépriser les singes. C'est pas mettre même un signe d'inégalité. C'est simplement que Sapiens occupe dans l'histoire de l'évolution une position extraordinairement singulière qui est liée à ce développement cérébral lui-même ahurissant d'une certaine façon. C'est qu'il l'a sorti de la nature. Voilà. D'une certaine façon, nous avons été sortis de la nature par l'évolution naturelle. Voilà.
Alors précisément, comme je suis à la fois darwinien et darwinien ignare, je pensais que tout se faisait par incrémentation, évolution lente, successive, et je découvre qu'en la matière, pour ce qui est de la sortie de l'homme de l'animalité pure, ce serait un saut soudain.
Oui, en fait vous êtes très darwinien, parce que darwinien avait un adage... qui était « Natura not facit saltum », c'est-à-dire que la nature ne fait pas de saut. Darwin était absolument convaincu que l'évolution, c'était par l'accumulation de petites différences, comme vous venez de dire, et comme vous le croyez jusqu'à récemment. Huxley, là, le bulldog de Darwin, disait « Vous avez tort de vous encombrer de cette hypothèse, parce qu'elle peut se retourner contre la théorie de l'évolution, d'une certaine façon ». Et il y a eu une espèce de... Vous savez, les scientifiques, ce n'est pas toujours des gens gentils. Ça se bagarre, les scientifiques.
Heureusement.
Ils ont des passions humaines qui, là, relèvent peut-être aussi des passions animales, d'une certaine façon. Parce que même s'ils ne sont pas des animaux comme les autres, nous restons des animaux. Ça, je pense qu'il ne faut jamais lâcher sur ça, parce que, alors là, sinon... Mais... pour revenir à ces disputes, pendant très longtemps, là, ce qu'on a appelé la théorie synthétique de l'évolution, qui était fondée sur une forme de génétique des populations et sur des approches mathématiques de l'évolution, pensaient qu'il n'y avait pas effectivement de possibilité de faire de saut évolutif. Et il y a toute une autre école qui est, dont je pense le premier théoricien a été quelqu'un comme Richard Goldschmidt dans les années 40, qui lui soutenait qu'il peut y avoir des sauts évolutifs, justement parce que des mutations vont tomber brutalement dans un endroit qui fait une grosse différence. Alors évidemment, ce sont des monstres. C'est ce que Goldschmidt appelait les monstres porteurs d'espoir. Mais la plupart de ces monstres disparaissent parce qu'ils ne sont pas, ils sont pas viables. Hein. Bon, on a le droit de tousser à la radio, il ne faut pas exagérer quand même. Nous sommes chez nous ici, à l'Académie.
Ma part d'animalité.
Donc, la plupart de ces mutations extrêmement monstrueuses ne sont pas viables. Hein. Mais des fois, il y en a une qui peut faire la différence. Surtout quand elle est dans un isolat où il y a assez peu de compétition. Hein, donc, c'est comme ça que Goldschmidt avait... une fois que la compétition revient, peut-être que justement cette population-là a des propriétés qui lui permettent de vaincre les autres et d'envahir tout, hein, de devenir en fait l'espèce dominante ou la forme dominante. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle l'évolution saltatoire. Et ça a été remis à la mode, mais pas vraiment à la mode, c'était redéfendu par Stephen Jay Gould, essentiellement, puis Eldredge, Gould, donc tout ça c'est revenu, mais ça restait fondé sur l'examen des couches géologiques. C'est-à-dire tout d'un coup, on voyait dans les couches géologiques le passage d'espèce dominante à une autre, et on ne voyait pas d'intermédiaire. Et donc, évidemment, les preuves géologiques, c'est difficile de les réfuter, hein, c'est difficile de travailler... C'est le problème de la biologie, c'est-à-dire qu'on peut pas, il n'y a pas vraiment de contrôle dans la manip. Et puis de là à revenir il y a 300 millions d'années, puis refaire le chemin, ça va prendre un certain temps. Ce sont des expériences par la pensée. Mais quand les gènes de développement ont été découverts, et quand on s'est rendu compte que des mutations dans des éléments régulateurs de gènes de développement peuvent avoir des effets extraordinairement amplifiés par rapport justement à l'élément simple de la mutation chimique, alors, il y a une espèce de fusion qui s'est faite entre le développement, la génétique et l'évolution. Hein, on appelait ça évo-dévo hein, quand j'étais petit. Maintenant, on dirait éco-évo-dévo. Mais qui a permis de donner un soubassement théorique à cette idée qu'il peut y avoir des sauts et que ces sauts sont responsables de changements dramatiques dans l'histoire des espèces. Oui.
Et alors, l'espèce, justement, pour Sapiens, comment... Quel est l'élément déclencheur de ce saut?
Pour Sapiens, on y travaille. C'est-à-dire qu'énormément de laboratoires aujourd'hui regardent dans le génome, justement, ce qui distingue l'homme, Sapiens, de ses plus proches cousins, les bonobos chimpanzés. Et puis, grâce à l'ADN ancien, on peut même aller regarder du côté des Néandertaliens, des Denisoviens. C'est-à-dire que les séquences... Quand l'ADN est conservé dans un reste de Denisovien, par exemple, dans une molaire, dans un os, dans un tégument qui aurait été préservé grâce à la température fraîche, eh bien, on peut aller faire le séquençage de l'ADN. Ça s'appelle le séquençage de l'ADN ancien. Et ça, ça peut donner aussi des informations sur les différentes étapes évolutives qui ont marqué notre parcours, hein, depuis l'ancêtre commun qui nous sépare des chimpanzés, et puis aujourd'hui. Donc, si on regarde toutes ces mutations, toutes ces modifications, toutes ces délétions, toutes ces choses qui se sont produites et qui font qu'on a un génome quand même relativement différent de celui d'un chimpanzé, c'est-à-dire, évidemment, nous avons un ancêtre commun, il ne s'agit pas de le nier, il s'agit de comprendre. Eh bien, à ce moment-là, on peut faire une manip par la pensée, hein, qui serait de prendre toutes ces différences et puis de les réintroduire, par exemple, dans un chimpanzé, c'est une manip par la pensée, pour voir ce que ça fait. Alors, pour l'instant, on ne peut pas faire de manip chez les chimpanzés, ils sont protégés, ce qui est tout à fait normal. Hein. On peut faire des manips chez la souris. Donc, vous pouvez prendre un élément régulateur, par exemple, de la prolifération des neurones au stade où le système nerveux se fait, un aimant régulateur de Sapiens, un aimant régulateur de chimpanzé, mettre derrière un marqueur, hein, pour voir comment il s'exprime, et le balancer dans une souris, en transgénèse, et voir ce que ça fait sur le cerveau de la souris.
En l'occurrence,
bah, c'était fait pour un élément régulateur qui s'appelle Human Accelerated Region 5. Ce sont des régions qui sont conservées dans toutes les espèces, mais qui ont évolué extrêmement vite chez Sapiens. Et donc, dont on peut penser qu'elles sont à l'origine de l'évolution particulière de Sapiens. Ce sont des petites régions de 120, 150 nucléotides. Et celles-là, quand on regarde la différence entre le HAR d'homme et le HAR de chimpanzé, en l'occurrence, on se rend compte qu'il augmente la taille du cerveau chez une souris quand c'est celui de Sapiens, mais pas quand c'est celui du chimpanzé. Donc il a probablement un effet sur la prolifération des progéniteurs neuraux. Vous voyez, c'est ce genre d'expérience qu'on peut faire pour comprendre quelles sont, parmi les différences qu'on peut voir entre un Sapiens et un chimpanzé, les éléments qui sont importants dans le sens augmentation de la taille du cerveau. Ou maturation du cerveau, hein, parce qu'on y viendra peut-être, mais la question de la maturation du cerveau est très importante. Et évidemment, il y a de la génétique derrière. Il y a de l'épigénétique aussi derrière. Donc, ce sont des choses qui sont extraordinairement intéressantes, qui sont fascinantes, et qui demandent un traitement quand même un petit peu plus élaboré que 1,23%. Vous voyez ce que je veux dire?
Il y a un point troublant sur lequel vous insistez dans l'ouvrage, c'est qu'entre l'émergence de Sapiens et les premières manifestations d'artefacts culturels remarqués, il se déroule un laps de temps assez important. Alors qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'on peut en déduire? C'est un peu troublant. Cet être qui émerge avec ses qualités nouvelles, mais qui met ensuite un temps très important avant de se manifester... comme humain, en quelque sorte, par la création, l'art, l'inquiétude métaphysique et ce genre de choses.
Et ça, c'était un des mystères. C'est-à-dire que depuis les derniers travaux et découvertes, en particulier de Jean-Jacques Hublin, hein, mes collègues au Collège de France, on sait que Sapiens a au moins 300 000 ans. Alors, ils ont découvert un Sapiens 300 000 ans dans le nord du Maroc. Avant, on était à 200 000. Quand j'ai commencé mes études, on était à 120 000. On en prit un coup de vieux tous les jours, mais on n'ira pas au-delà de 500 000, puisque c'est la distinction avec les Néandertaliens. Donc, ouais. 300 000, ça me paraît raisonnable. Il est exact que la plupart des artefacts culturels, les colliers, les peintures rupestres, toutes ces activités qui montrent une certaine forme d'activité intellectuelle et artistique puissante, ont au mieux, je dirais, 60 000 ans, un truc comme ça. Bon, qu'est-ce qui a pu se passer? D'abord, il y en a qui ont pu disparaître. Les artefacts culturels, ça ne se conserve pas forcément. Ensuite, c'est peut-être lié à des migrations dans certaines régions. Vous savez, Sapiens, ça n'a pas été une histoire drôle. Peut-être pas toujours d'ailleurs, mais toujours pas plutôt. Mais on a failli disparaître plusieurs fois. Donc il n'est pas impossible que, avant de s'occuper de décorer les appartes et de donner des colliers à ses fiancés, Sapiens ait eu des difficultés, des occupations plus concrètes. Il faut quand même comprendre que nous étions quelque chose comme 10 000, hein, quelque part en Afrique, à l'est ou à l'ouest du Rif, je ne saurais dire, mais quelque part en Afrique, il y a 300 000 ans, puisqu'il s'agit de 300 000
ans. Pas si longtemps.
Il n'y a pas si longtemps. Et on n'était pas entouré d'un milieu très favorable. On peut aimer les lions, les rhinocéros, tout ça, mais enfin, quand on est 10 000 sapiens dans la forêt ou dans la savane, entouré d'animaux ou des conditions climatiques qui ne sont pas forcément... il faut survivre. Surtout qu'on est dans un état qui n'est pas très costaud. Hein. Un petit sapiens, c'est très appétissant. Et il faut du temps pour devenir autonome. Il n'est pas tout armé comme un poulain qui sort déjà avec ses quatre sabots et son poil du ventre de sa mère. Il faut un certain temps avant que ça devienne autonome et puisse se battre. Donc ça impose quand même une certaine contrainte. Et d'ailleurs, il est probable que nous avons pu disparaître plusieurs fois. Nos migrations ont démarré tard hors d'Afrique. Hein. Et donc, il y a eu des goulets d'étranglement. Il est possible qu'on soit arrivé au bord de l'extinction avant que ça ne redébarre. Donc, je crois qu'il faudra avoir une meilleure idée de l'histoire de Sapiens entre il y a 300 000 ans et aujourd'hui pour savoir pourquoi, et puis aussi des processus de conservation des artefacts, pour savoir pourquoi on a pu s'adonner à une activité culturelle élevée seulement il y a quelque chose comme 60, 70 000 ans. Ce n'est pas vraiment mon travail, c'est plutôt du travail des paléo-anthropologues. Et il faudra interroger M. Hublin, par exemple, qui a sûrement des opinions importantes là-dessus, ou d'autres, hein, bien entendu.
Non, quelqu'un dans la maison.
Vous avez plaisir dans la maison, bien entendu. Bon, on ne fera pas leur publicité tout de suite, voilà.
Vous avez évoqué les faiblesses constitutives initiales du petit homme lorsqu'il naît, tout appétissant, pas tout à fait fini. Vous nous expliquez dans l'ouvrage que c'est aussi sa chance et que ça s'est révélé probablement un avantage très important dans la lutte pour la vie et la survie qui était la sienne.
Oui, ça peut paraître très contradictoire. En fait, c'est extraordinairement intéressant parce que pour un neurobiologiste, c'est très intéressant. Si vous voulez, la femelle sapiens est bipède. Hein, et donc ça impose une certaine conformation du bassin. Et en parallèle, le cerveau de sapiens a augmenté de façon dramatique. Hein, on en a parlé il y a un instant. Ce qui veut dire que un cerveau de sapiens adulte ne passerait pas par la porte.
C'est-à-dire que le bassin se rétrécit au moment même où le cerveau...
Voilà. Et donc, à un moment, il faut que ça passe. Quoi, hein, la parturition, ce n'est pas une partie de plaisir. Enfin, heureusement, maintenant, il y a la péridurale. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Donc, oui, on a quand même fait des progrès chez Sapiens. Donc, ce n'est pas une partie de plaisir. Donc, et de toute façon, c'est impossible. Donc, c'est pour ça que Sapiens a une naissance prématurée. C'est-à-dire que par rapport à son poids adulte de 1400 grammes, le poids du cerveau à la naissance chez Sapiens, c'est 140 grammes à peu près. D'accord ? Donc il naît avec 10% de sa taille globale. C'est-à-dire qu'on a un cerveau, alors puis le corps, ben, à l'avenant, hein, c'est quand même tout petit ce truc-là. On a un cerveau qui se développe essentiellement de façon postnatale. Un chimpanzé, pour prendre un exemple, quand il naît, il a un cerveau qui fait entre 50 et 60% de la taille finale. Hein. Donc environ 200 grammes, 240 grammes. Hein. Mais ce n'est pas un bipède, donc c'est plus facile de passer, puisque en poids sec, comme je disais, nous sommes à peu près identiques à des chimpanzés. Donc ce qui veut dire que le cerveau se développe dans le milieu extracorporel, en dehors de la mère, et donc dans un milieu social. Et ça, c'est très important, parce que le cerveau, ce n'est pas un organe purement génétique. C'est-à-dire, le génome étant donné, vous n'avez pas l'individu au bout du compte. L'individu, c'est une histoire génétique, puisqu'il faut avoir un génome humain pour faire un cerveau humain, mais c'est aussi une histoire d'individuation, c'est-à-dire que chaque individu a un cerveau différent, parce qu'il a une histoire différente. Et donc, la construction d'un système nerveux dépend du milieu dans lequel ce système se développe. Alors, quand vous vous développez dans un système socialement riche, parce qu'en même temps, pour protéger les enfants, il faut construire des sociétés. Hein, il faut construire des sociétés qui protègent, qui font des arbres, qui font du feu, qui parlent, qui échangent. Alors maintenant, vous imaginez avec Google la richesse du milieu, donc, puis Canal Academy surtout. Donc ces enfants se développent dans un milieu culturel très riche, et ça contribue à la richesse de leur cerveau. C'est-à-dire que en particulier des régions du cerveau qui sont impliquées dans les phénomènes cognitifs, et en particulier les régions frontales du cerveau, dont la maturation s'achève vers 20 ans. Hein. Donc vous avez une vingtaine d'années, puis on apprend encore après, hein, ça c'est autre chose, mais vous avez une vingtaine d'années pendant lesquelles le cerveau est capable d'engranger avec une très grande plasticité...
Tout en se construisant, c'est ça le
point. Tout en se construisant, les informations qui viennent de l'extérieur et d'un milieu culturel incroyablement riche. Et ça contribue aussi, en dehors du génome, à ce qui est unique dans notre espèce et qui fait qu'on est des animaux pas comme les autres.
C'est-à-dire que si le même individu naissait avec un cerveau terminer, quitte à ce qu'ils vivent et qu'ils découvrent la même société ensuite, ça n'aura pas le même effet sur la constitution de son cerveau.
Ah ben non, bien entendu, c'est, bah, c'est l'histoire des enfants sauvages. Si un individu humain naît dans la jungle et survit dans la jungle, ça a été l'histoire de Frédéric II, c'est-à-dire que si on, qu'on les met après ces périodes critiques de développement et de plasticité dans une société humaine, ben ils n'en tireront, bien sûr que ça va avoir des effets, ils n'en tireront pas les caractéristiques d'un humain qui a vécu et s'est développé dans ces sociétés humaines.
Alors vous parliez de jusqu'à 20 ans, mais que notre capacité à apprendre se poursuivre ensuite. Et si j'ai bien compris, parce que là nous rentrons dans des considérations plus techniques, le cerveau continue à se modifier, à se constituer, non pas par les neurones, mais par d'autres éléments, jusqu'à 30. C'est-à-dire que même à 20 ans, c'est pas fini.
Oui, c'est-à-dire que, bon, vous savez, le système nerveux, c'est 10% de neurones. Hein. Alors maintenant, c'est important, ça prend de la place. Ça a des neurites, des axones, des dendrites, des machins, donc c'est comme une broussaille, donc ça prend beaucoup de place. Mais il n'y a pas que ça, il y a 90% de cellules qui ne sont pas des neurones. Des astrocytes, des organocytes, des macrophages, des cellules immunitaires, macrophages, des cellules sanguines. Hein. Un cerveau qui n'est pas irrigué, excusez-moi, mais c'est mort. Donc, alors il y a une classe de cellules qu'on appelle des oligodendrocytes qui font ce qu'on appelle la substance blanche qui permet à l'information de passer rapidement d'un point à un autre. La myélinisation d'un cerveau humain, ça se termine entre 20 et 30 ans, oui.
Donc, c'est quoi la myélinisation ?
Myélinisation, ça veut dire la construction d'une couche de myéline qui permet une transduction très rapide du signal d'un endroit à un autre du cerveau. Donc oui, c'est un organe qui se différencie lentement.
Et par rapport au chimpanzé, toutes ces périodes sont plus courtes chez lui.
Bah, le chimpanzé, il est pubère à 8 ans, 8-9 ans, hein, si je me souviens bien. Je ne suis pas un grand spécialiste de chimpanzé, j'espère le devenir assez rapidement, mais vers 8-9 ans, bon oui, c'est le chimpanzé se termine plus tôt, oui. Donc voilà, donc on peut encore chez l'adulte, évidemment, heureusement qu'on peut apprendre chez l'adulte, sinon ça ne sert à rien que je sois ici. Donc on peut apprendre chez l'adulte, mais c'est plus difficile. Si vous apprenez de l'instrument de musique à 40 ans, vous pourrez. Mais évidemment, ce ne sera pas, vous ne serez pas Stephen Jay Gould, hein, si on pense au piano par exemple. Donc il y a ça, c'est spécifique de Sapiens, de cette capacité incroyable. C'est une éponge. Un jeune Sapiens, c'est une éponge. Vous avez vu des enfants pousser, non ? En fait, c'est ahurissant, quoi. Voilà. Donc oui, peut-être qu'on devrait parler un petit peu d'évolution des génomes via les éléments mobiles. Ça, c'est un truc qui est vraiment aussi très important à un moment ou à un autre.
Eh bien, écoutez, volontiers, mais je voudrais qu'on parle aussi du langage. Quand même, parce qu'on oui. ne peut pas faire l'économie de parler du langage.
Non, d'ailleurs, le livre là, dont vous avez eu la gentillesse de parler est très, très centré sur le langage, oui, bien entendu. Bah oui, le langage, mais le langage, c'est à la fois avoir quelque chose à dire, donc ça a à voir avec ce qu'on vient de dire, quand même. Hein. Les enjeux sociaux, faire société, donc on peut donner la parole à des chimpanzés, je ne sais pas ce qu'ils auraient à nous dire. Il faut quand même aussi comprendre ça. Mais c'est aussi, évidemment, les aires du langage, c'est-à-dire le développement d'aires cérébrales qui sont impliquées dans le langage, comme les aires de Broca, les aires de Wernicke. Et donc, les modifications des réseaux de neurones dans le système nerveux, parce que ce n'est pas seulement une augmentation du cerveau, ce n'est pas une augmentation uniquement des aires X par rapport aux aires Y, c'est aussi une modification des circuits. Et ça, c'est très, très important. Une augmentation, une densité du neuropile, beaucoup plus de neurites, beaucoup plus de synapses, mais aussi des modifications des circuits. Et dans le développement du langage, les modifications des circuits entre les aires motrices et les aires pariétales, qui sont les aires auditives, etc., et les aires cognitives, sont des choses extraordinairement importantes. Et puis, il y a aussi la capacité de parler. Hein, il y a aussi un côté moteur. Hein. Là, je fais à peu près, je ne sais pas, une demi-heure, 35 minutes que nous discutons. Et pensez simplement au mouvement des lèvres, au placement de la langue, à la position du larynx. Tout ça, ce sont des choses qui sont extraordinairement fines et qui demandaient un développement des systèmes moteurs qui n'existent pas chez un chimpanzé. Et ça, on peut le voir très, très facilement. Donc, le langage, c'est une modification physique, motrice, cérébrale et culturelle, bien entendu, qui n'appartient qu'à Sapiens.
Ce qui est très, très étonnant, lorsqu'on parcourt les différents chapitres de l'ouvrage et qui passent les uns après les autres, les distinctions qu'il peut y avoir entre Sapiens et les singes et puis d'autres espèces, c'est que tout semble converger chez Sapiens pour former quelque chose de cohérent. Ce qu'on pourrait rajouter, notamment un élément qui m'a frappé, c'est celui des cycles de fertilité qui sont différents de ceux des chimpanzés et qui là aussi contribuent à ce que nous fassions société.
Oui, mais Sapiens, c'est pas la seule espèce. Hein. Il y a aussi les orques ou baleines. Mais Sapiens est une des rares espèces dont les individus vivent au-delà de la période de fertilité. Hein. Mais longtemps, hein, puisque bon, la période de fertilité, ça s'arrête vers 45-50 ans, enfin à l'époque peut-être plus tôt, j'en sais rien. Mais il y a toujours eu des Sapiens de 70, 75, 80. C'est la mortelle. L'espérance de vie de Sapiens a augmenté. Mais elle n'a pas tellement augmenté parce qu'on vit plus longtemps, elle a augmenté parce qu'on meurt moins tôt. C'est-à-dire, il y a moins...
C'est en moyenne par
voilà, il y a moins de morts à la naissance. Essentiellement, la mortalité infantile a énormément diminué. Il y a moins de morts à la parturition parce qu'on a inventé les antibiotiques quand même. Avant, une femme avait beaucoup de chances de mourir, une chance non négligeable, chance, si j'ose dire. Une probabilité non négligeable de mourir au moment de la parturition par les biais des infections, etc. Donc, oui, l'espérance de vie a augmenté, mais... Il y a toujours eu des vieux.
Passé un certain cap, on poursuivait.
Voilà. Donc, ça, c'est un avantage évolutif chez Sapiens, parce que ça permet de s'occuper des enfants. Ça permet donc d'avoir des cycles de reproduction plus... Quand on arrête d'allaiter, de nouveau fertile, pour faire plus de petits dans un espace limité quand même de période de fertilité. Et puis, ça a un effet culturel très fort. C'est-à-dire que quand il n'y avait pas Google, comment est-ce qu'on savait ce qu'il fallait faire le jour où il y a un tsunami, par exemple? Parce qu'il y avait quelques vieux qui avaient déjà vécu un tsunami et qui disaient, là, il faut se tirer vite, il faut courir sur la montagne, parce qu'il y a un signe avant-coureur, j'ai déjà vu ça, etc. Donc c'était quelque chose d'extraordinairement important qui a beaucoup contribué, en fait, à ce qu'on peut appeler la victoire de Sapiens. Hein, parce qu'on a beau avoir été que 10 000... On a beau avoir eu des bottlenecks. Aujourd'hui, on est 6 ou 7 milliards sur toute la surface de la Terre, et même on en a mis 2 sur la Lune. Aucune bête ne l'a encore fait.
Probablement parce que, par tous ces phénomènes conjoints, nous ne repartons pas à chaque fois du même niveau. C'est-à-dire qu'on repart au niveau où s'est arrêtée la génération précédente.
Ben c'est ça, c'est ça la culture. La culture, c'est de repartir là où la génération précédente vous a laissé. Hein. Imaginez quand même qu'il y a en 1910, hein, les avions montaient à 2 mètres de haut et au bout de 100 mètres se piquaient le nez. Hein. 50 ans plus tard, on mettait 2 hommes sur la Lune. Quand même, quel bon. Hein. Et ça, c'est le côté incrémentiel de la culture. Ça, c'est essentiel.
Alors, je vais moi-même faire un saut dans l'inconnu philosophique. Quand je vois toute cette convergence, je reconnais avoir la tentation... coupable probablement d'hésiter entre le hasard et la nécessité.
On ne peut pas hésiter. L'évolution, c'est un processus sans fin et c'est un processus sans finalité. C'est-à-dire que, nous sommes, de ce point de vue, nous sommes vraiment des bêtes. Hein, nous sommes le résultat d'un processus évolutif. Alors, le fait que nous ayons un cerveau comme le nôtre, le fait que nous sommes sortis un peu de la nature, fait que nous avons maintenant un impact très très fort sur l'évolution elle-même, en particulier sur l'évolution de la nature.
Ou voir sur la nôtre.
Et sur la nôtre. Et donc, mais ça, il faut prendre ça en compte. Hein. Voilà, c'est comme ça, on n'y peut rien. On peut s'en réjouir, on peut s'en affliger, mais Sapiens a un contrôle ou un non-contrôle par les artefacts qu'il crée. Sur l'évolution de la nature et sur l'évolution de Sapiens lui-même. Tout cela aura une fin. C'est-à-dire que quand Sapiens aura disparu, ce qui probablement ne manquera pas d'arriver, la nature, au sens où certains l'entendent, reprendra ses droits et tout retombera dans l'ordre. Le problème, c'est qu'il n'y aura personne pour chanter la nature. Voilà. Quand Orphée meurt, il ne reste plus grand-chose. Donc nous sommes Orphée quand même.
Et nous sommes donc responsables.
Oui, nous sommes responsables, bien entendu. Mais on est responsable parce qu'on veut survivre. C'est-à-dire que notre responsabilité, je pense qu'il faut faire extrêmement attention, c'est-à-dire que le réchauffement climatique, ce n'est pas une blague. Tout ça est très important et il faut prendre les mesures nécessaires. D'ailleurs, ces mesures sont d'ordre scientifique pour beaucoup d'entre elles. Hein. Il ne s'agit pas de revenir à l'état de nature. Il s'agit d'utiliser les connaissances scientifiques et rationnelles pour répondre à ces défis que nous avons créés d'une certaine façon par notre activité de l'anthropocène, hein, comme disent certains de mes collègues. Donc, nous en sommes responsables, mais nous voulons survivre. Hein? Alors, si nous voulons survivre, eh bien, il va falloir faire en sorte que nous survivions. Mais si nous n'arrivons pas à survivre parce que nous avons été trop loin et que nous ne sommes pas capables de prendre les mesures et les décisions politiques qui feraient qu'on peut répondre à ces défis qui sont nés de notre activité dans l'Anthropocène, alors nous disparaîtrons. Et à ce moment-là, le problème sera réglé.
Donc, s'il y avait dans nos auditeurs des antispécistes qui nous écoutent, nous sommes bien d'accord que vous n'êtes pas ici pour maintenir le droit de l'homme à maintenir les autres espèces en état de sujétion et sous le joug d'une domination implacable, mais bien pour refonder le lien de responsabilité et les liens que nous avons avec la nature.
Je pense que c'est y a une contradiction chez les antispécistes, ça recouvre beaucoup de choses. Mais donc ça peut être une discussion en soi, la question de l'antispécisme. Mais il n'y a pas de domination. Si nous étions des darwiniens totaux, nous avons gagné. Sapiens a gagné. Donc à ce moment-là, on pourrait avoir une domination totale sur tous les animaux, ça serait bien normal puisqu'on a gagné. Hein, c'est ça la lutte entre les espèces. Si vous allez, excusez-moi, tout nu dans la forêt vierge, pour ce qu'il en reste, hein, il y a encore deux ou trois forêts comme ça, je ne vous donne pas 8 jours de survie. Ils ne vont pas respecter les droits de l'homme. Ni les serpents, ni les singes, ni quoi que ce soit, ni les gorilles, ni les lions. Non, les droits de l'homme, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est la volonté de Sapiens de s'imposer des devoirs vis-à-vis des autres animaux. Hein. Et ce n'est pas parce que nous sommes proches d'eux, mais c'est justement parce que nous en sommes à une grande distance. C'est justement parce que nous avons un cortex extrêmement développé que nous sommes en mesure de faire du droit qui n'est ni un droit naturel, ni un droit religieux, qui est un droit spécifiquement humain. Et dans ce droit, nous inscrivons le devoir de ne pas faire souffrir les animaux, le devoir de veiller à la diversité de la nature, etc. Mais ça, c'est un phénomène spécifiquement humain. Si nous n'avions pas un cortex comme le nôtre, nous ne serions pas en mesure de le faire.
La singularité humaine est donc finalement une bonne nouvelle pour les autres espèces.
Bah, écoutez, s'il n'y avait pas de sapiens, elles se débrouilleraient. De toute façon, quand elles sont lâchées dans la nature, vous savez, ce n'est pas un parc de loisirs, la nature. Ce n'est pas Disneyland. La nature, c'est violent. Hein, on y tue, on y mange, on y viole. Enfin, c'est des choses épouvantables, la nature libre. Sapiens a mis un peu d'ordre là-dedans. Alors évidemment, il s'est servi. Et il s'est servi au point qu'il met en péril même la survie de tout le système. Et donc c'est là qu'effectivement, il faut être capable de prendre les décisions qui s'imposent. Et si on ne les prend pas, elles s'imposeront d'elles-mêmes.
En utilisant notre cortex préfrontal.
En utilisant notre cortex préfrontal et tout notre cortex. Hein, parce que bon, tout compte dans le cortex. Tout est bon dans le cortex.
Pour conclure, on est passé à l'Anthropocène et au risque et à cette finalité sans fin et probablement tragique qui se profile avec, allons-y gaiement, même la fin du système solaire. Toutefois, à plus brève échéance, mais quand même sans être le nez collé sur l'immédiateté, on a vu que cette évolution du cerveau était d'une plasticité incroyable, qu'il évoluait en permanence, donc il est appelé à continuer à évoluer en attendant que si la catastrophe ne se produit pas tout de suite.
Mais non, mais il se prolonge surtout. Si vous voulez, l'outil a prolongé le bras, hein, le roi Gouran, la bicyclette a prolongé nos jambes, Eh bien aujourd'hui, l'ordinateur prolonge notre cerveau. Donc, on parlait au départ de l'interface machine, mais en fait, ce sont des prolongations techniques du cerveau humain. Donc oui, il va se développer, mais plutôt du côté de sa prolongation technique. Voilà, c'est... Sapiens est un animal technique. Si Sapiens n'avait pas inventé les armes et le feu, les 10 000 là, petits, hein, il y a 300 000 ans, il n'aurait jamais survécu. Nous avons survécu parce que nous sommes des animaux techniques, voilà, et scientifiques. Et c'est pour ça qu'il faut défendre les sciences et les techniques.
Merci beaucoup. Pour prolonger cette réflexion, je ne peux qu'inciter nos auditeurs à se plonger dans cette belle histoire de l'humanité. Tiens, on n'a pas dit pour conclure quand même, singe toi-même. Comment fallait-il comprendre ce titre? Il est un petit peu à double sens, ou à tiroir.
Oui, c'est un double sens. Singe toi-même, c'est la réponse à quelqu'un qui vous dit on est des singes. Je dis singe toi-même, hein, dans la façon un petit peu, je dirais, vulgaire au sens noble de la chose. Mais en même temps, c'est s'interroger. Oui, nous sommes des singes. Singe toi-même, oui, toi aussi tu es un singe. Moi aussi je suis un singe. Mais être et ne pas être un singe. Être et ne pas être un animal. C'est ça la question, comment il faut la poser. C'est cet oxymore, cette contradiction interne qui fait que Sapiens, c'est quelque chose d'absolument unique. Oui.
En tension.
En tension, oui.
Merci beaucoup Alain Prochian. Je renvoie donc nos auditeurs au livre, car nous n'avons pas abordé l'ensemble de ce que contient le livre, hélas, en trois quarts d'heure, c'est impossible. Il s'agit donc de se plonger avec son cortex néofrontal,
préfrontal.
Dans Singe toi-même, publié aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup encore.
Merci à vous. Thank you.